à tous et à toutes, au micro Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Hélas, chers auditeurs, je vais encore vous parler des derniers affrontements à la frontière de Gaza. Vous le savez, la tension y est permanente et c'est le 7e bombardement des milices islamistes contre Israël au cours de ces 2 derniers mois. Mais cette fois, c'est plus grave. 700 obus et missiles tirés, 4 tués et des dizaines de blessés civils côté israélien. Et puis évidemment, les représailles par l'aviation de l'État juif, 23 morts gazaouis dont des hommes armés et des civils. Pourquoi cette agression maintenant? Comment neutraliser le Hamas définitivement? Qui mène la danse, Israël ou les chefs de bandes islamistes? La population du sud d'Israël n'en peut plus, elle est en colère contre le gouvernement. Nous sommes tous enlisés dans les sables pour comprendre la situation générale. C'est pour cela que j'ai demandé à Arié Avidor de répondre à nos questions. Arié Avidor a été ambassadeur d'Israël en Europe et dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, il intervient comme consultant politique dans les médias israéliens et internationaux. Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous là?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Arié Avidor. Alors, où en sommes-nous avec Gaza en ce moment? Les citoyens israéliens paraissent excédés. Le Hamas explique qu'il a imposé sa volonté. De son côté, Netanyahou affirme que c'est lui qui tient les rênes, que la milice islamique va se calmer vu les représailles. Qu'est-ce qui se passe vraiment?
Alors, vous l'avez rappelé, nous avons subi à la fin de la semaine dernière, au début de cette semaine, un nouveau round d'agression de la part des organisations terroristes à Gaza. Le Hamas est également un nouvel acteur, enfin pas nouveau, mais un acteur qui prend de l'importance de plus en plus, c'est le djihad islamique, qui sert de partenaire au Hamas en l'occurrence. Et nous avons subi de la part de ces deux organisations une nouvelle agression, et vous l'avez rappelé, qui a fait 4 morts, c'est-à-dire parmi la population israélienne, pour la première fois depuis presque 5 ans, hein, depuis l'opération Bordure Protectrice. Et de là, toute la gravité de cette attaque. Alors, c'est un round qui, vous l'avez dit, encore une fois, plus de 700 roquettes et missiles ont été déversés sur nos populations civiles. Nous avons eu, je répète, 4 morts. Et il y a eu un cessez-le-feu instauré de manière unilatérale par les organisations terroristes. En contrepartie, elles vont recevoir dans l'immédiat 30 millions de dollars de la part de leurs partenaires
Qatari
et des Émirats. Mmh. Et dans l'immédiat. Et dans un avenir un peu plus lointain, plus d'un demi-milliard de dollars pour l'ensemble de la population palestinienne. Alors en fait, on peut se poser réellement la question, qui sort vainqueur, qui sort gagnant de ce round? Voilà, pour Israël, alors là je fais la différence. Il y a Israël, il y a la population israélienne, il y a la population israélienne du sud du pays, et pas seulement à la frontière de Gaza. Les bombardements ont touché Ashdod, Be'er Sheva, Ashkelon et des villes aussi éloignées, presque 100 kilomètres.
C'est le grand sud.
Les organisations terroristes sont capables encore d'allonger la portée de leur tir à volonté. Alors, Israël certainement n'est pas sorti vainqueur de ce round. Nous n'avons certainement pas amélioré notre capacité dissuasive en l'occurrence. Et c'est cela qu'il faudrait absolument à tout prix rétablir, notre capacité de dissuasion à l'écart de ces attaques. Alors qu'aujourd'hui, à la moindre doléance formulée par le Hamas ou par le djihad islamique, ou les deux ensemble, voilà, ça se traduit immédiatement par une volée de roquettes et de missiles sur nos populations. Et c'est toujours, à chaque fois, c'est toujours le même scénario. Et si, voilà, dans cette formule-là, à plusieurs membres. Alors nous avons d'un côté les organisations terroristes, nous avons Israël, nous avons l'autorité palestinienne qui cherche à reprendre en main la bande de Gaza et qui voudrait par conséquent affaiblir le Hamas ou même le neutraliser. Mais d'un autre côté, vous avez le Premier ministre israélien, M. Netanyahou, qui déclare aux députés du Likoud, et ça a été enregistré publiquement il y a quelques jours, que ça n'est pas dans l'intérêt d'Israël de neutraliser le Hamas. L'intérêt d'Israël étant d'empêcher une solution du conflit à deux États. Il faut le Hamas est un partenaire même important, parce que si on laisse l'autorité palestinienne regagner la bande de Gaza, il faudra négocier avec lui. Tandis que personne ne nous obligera à négocier avec le Hamas, qui est considéré à juste titre comme une organisation terroriste partout, par l'Europe, par les États-Unis, par les Nations Unies et par la communauté internationale en général. Voilà, la situation qui est pratiquement gelée dans laquelle nous nous trouvons. Et il n'y a pas moyen de sortir de cette impasse tant que les partenaires entre guillemets resteront sur leur position. Et malheureusement, dans cette situation, ce sont les populations du Sud, dans un rayon de plus en plus large du Sud d'Israël, et aussi les populations de la bande de Gaza qui sont la variable d'ajustement.
Mais Ari Avidor, je voulais vous poser une question à ce propos. Il y a quand même un paradoxe, parce que plus les villes du sud d'Israël sont bombardées par le Hamas, plus ses habitants sont en colère contre le gouvernement, plus ils votent pour Netanyahou, puisqu'on a vu qu'à Ashkelon, à Beersheba, à Ashdod, il a augmenté ses scores. Alors comment vous expliquez ce phénomène? Il y a des gens en Israël qui appellent ça le syndrome d'Ashkelon.
Il y a un phénomène là qui est apparemment inexplicable, qui est du domaine du syndrome, qui est même du domaine de la psychologie ou de la psychopathologie, et qu'on essaie d'expliquer. Des populations qui sont de plus en plus victimes d'une politique qui est clairement ne va pas dans la bonne direction. Alors on voit de plus en plus pour ceux qui sont derrière cette politique, qui la font. Alors voilà, oui, on se pose la question, effectivement. Il y a des choses irrationnelles dans la vie politique israélienne et il faut apprendre à vivre avec elles.
D'accord. Vous savez, il y a eu des opérations lourdes à la frontière de Gaza en 2009, en 2012, en 2014 contre le Hamas. Il y a eu des pertes militaires importantes du côté de Tsahal. Et l'autre jour, j'écoutais, pendant le Yom HaZikaron, l'interview d'un jeune soldat, il a 26 ans, de Tsahal. Il souffrait d'un stress post-traumatique dû à la perte de camarades lors de ses opérations. Alors, je vais le citer. Il disait « Si nous avions réussi à vaincre le Hamas et à amener le calme en Israël, j'aurais été moins malheureux de la perte de mes amis, même si davantage j'avais perdu la vie. Mais là, ça continue. Tout cela a servi à rien. » C'est terrible. Pourquoi Tsahal ne parvient pas à neutraliser le Hamas, à apporter le calme aux Israéliens qui supportent les bombardements depuis des années?
Tsahal est une armée qui est capable de réaliser toutes les opérations qu'on peut lui demander. Mais au commandement suprême, vous avez l'échelon politique qui décide.
Bien sûr.
Tsahal a des plans d'opération, il est prêt à réaliser ses opérations à tout moment, mais la décision, elle est prise à l'échelon politique. Et l'échelon politique, c'est le cabinet de sécurité, c'est en tout premier lieu le Premier ministre et les ministres qui en font partie. Alors voilà de quoi il s'agit. Je peux vous, à titre personnel, hein, je peux renforcer le sentiment de ce que ce soldat avait dit. Pour avoir participé il y a très longtemps à plusieurs opérations, une qui a fait beaucoup de morts, la guerre des six jours a fait 700 morts de notre côté. Mais c'était une victoire tellement éclatante que, pour beaucoup, bien sûr, on n'oublie pas les pertes et les morts, mais on a le sentiment qu'ils ne sont pas morts pour rien. D'un autre côté, il y a eu la guerre d'usure sur le canal à laquelle j'ai participé également.
Il remet à Tachin.
Également aux alentours de 700 morts. C'était dans les années 1968-70. Nous avons eu également autour de 700 morts, et je peux me souvenir de pertes que nous avons eues dans mon unité, au poste qui était le nôtre sur le canal de Suez, qui sont morts, que je n'ai pas pu oublier à ce jour, qui reste un traumatisme présent jusqu'à ce jour. Voilà, et c'est un sentiment que je puis totalement partager. Parce que la guerre d'usure, on ne l'a pas gagnée. On n'a pas perdu, mais on ne l'a pas gagnée non plus.
Oui, parce qu'après, il y a Milchemet de Kippour.
Et celle de Kippour, on l'a gagnée. Nous avons terminé la guerre de Kippour, kilomètre 101, du côté ouest du canal, pas du côté est. Et tandis que la guerre d'usure, ça a été une guerre de position avec des pertes de part et d'autre, mais sans pouvoir décider de la situation. Et c'était un peu le sentiment que ce jeune aujourd'hui peut avoir, une ou deux générations après, face à ce qui se passe à Gaza. Ça, elle est capable, bien entendu, de mener une opération à Gaza. Je ne veux pas dire par là qu'il faut aller réoccuper Gaza, une ville avec 2 millions d'habitants palestiniens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais mener une opération, peut-être éventuellement changer le régime sur place, aider à réintégrer l'autorité palestinienne et à Gaza. Ça, tout cela est dans l'ordre du possible.
D'accord. Une dernière question, il nous reste une minute. Il y a un éditorialiste qui s'appelle Ben Dror Yemani qui a écrit récemment « Les colons de Judée et de Samarie sont préférés aux habitants du Sud ». Il a écrit ça dans le grand quotidien Yediot Aharonot. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, nettement. Alors voilà, oui, et il voulait dire par là que la priorité du gouvernement de Netanyahou lui-même, c'est d'éviter donc la solution à deux États. Et ça figurera, je le regrette, dans le programme, et probablement dans le programme du nouveau gouvernement qui sera formé, ce sera l'annexion de territoires en Judée et Samarie. Et tout cela, bien entendu, et c'est bien plus important pour les colons de Judée-Samarie qu'une solution à Gaza. Qu'une solution à Gaza qui amènerait le calme aux habitants des alentours de la frontière de la bande de Gaza. La priorité, c'est la Judée-Samarie et l'annexion. Il le déclare même, il n'y a absolument rien de secret dans cette affaire.
Ok, merci beaucoup, Ari Avidor. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Voilà, on pourrait rester encore quelques temps, mais le temps nous est compté. Donc, chers auditeurs, je vous souhaite Shabbat Shalom. Et on se retrouve pour un autre rendez-vous. C'était Paul Ouzi Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.